D'abord, un grand merci à Émilie Gaillard pour cette invitation et mes félicitations pour la réussite de cette manifestation. Elle me donne l'occasion de vous parler d'un sujet qui m'est cher, qui est celui de la Déclaration universelle des droits de l'humanité que nous avons rédigée avec Émilie et l'équipe de Michel Prieur, que je suis heureuse de saluer ici, à l'été 2015, à la demande du président de la République François Hollande, en vue de la préparation de la COP21. Alors, je voudrais simplement vous dire pourquoi je pense que ce texte est vraiment nécessaire, vous dire très rapidement ce qu'il y a dedans, vous dire où nous en sommes de sa diffusion. Alors, pourquoi une déclaration universelle des droits et des devoirs de l'humanité? En quoi est-ce utile? Par rapport, d'une part, à la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autre part à des textes qui traiteraient de l'environnement, puisque ce texte parle beaucoup d'environnement, mais pas que. Alors d'abord par rapport à la Déclaration des droits de l'homme, qui évidemment n'est pas mise en cause par cette Déclaration universelle des droits et des devoirs de l'humanité, Déclaration des droits de l'homme dont nous savons tous, parce que nous sommes tous des défenseurs des droits humains, que ces effets sont bien loin d'être épuisés et que nous sommes bien loin d'une application universelle de cette déclaration. Ceci étant, les sujets que nous avons à traiter et qui ont été traités tout au long de cette journée, on le voit bien, ce sont des sujets collectifs. Nous avons dépassé l'échelle individuelle. Il ne s'agit plus de défendre l'intégrité ou le droit d'une personne, il s'agit de défendre l'intégrité et les droits des personnes, c'est-à-dire de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle il faut désormais raisonner aussi en termes collectifs, et donc en termes de droits et des devoirs de l'humanité. Tout à l'heure, il y a eu une question qui a été posée dans la salle par un de nos jeunes auditeurs sur c'est quoi les générations futures. Nous nous sommes posé la même question, c'est quoi l'humanité ? La réponse peut vous paraître évidente, mais elle ne l'est pas tant que ça. Nous avons donné de l'humanité une définition à la fois, on a beaucoup discuté du sujet, à la fois verticale et horizontale. Nous avons pensé que l'humanité, c'était évidemment les générations présentes et les générations futures, mais nous y avons ajouté les générations passées, parce que nous avons considéré que les générations actuelles, par voie de conséquence futures, avait un certain nombre de devoirs à l'égard du patrimoine qui avait été légué, notamment patrimoine culturel, qui avait été légué par les générations passées. Et que celles-ci avaient, en contrepartie, un certain droit à voir au moins le respect de ce qu'elles avaient fait. Ce n'est pas dire du conservatisme qui fiche tout et on n'a rien le droit de bouger. Non, ça veut dire d'avoir du respect pour ce qui a été fait et de sauvegarder ce qui mérite de l'être. Mais l'humanité, c'est aussi une définition horizontale. C'est-à-dire, l'humanité aujourd'hui, à ce moment précis, c'est qui ? Et nous avons considéré que c'était tout le monde. C'est-à-dire que l'humanité partait des États, voire des organisations internationales supra-étatiques, supranationales, pour aller jusque chez les citoyens. Et on voit bien qu'effectivement, un certain nombre de citoyens agissent aujourd'hui au nom de l'humanité. Et donc, nous avons défini l'humanité comme étant ce continuum entre l'ONU et vous et moi, avec au milieu, bien sûr, les collectivités publiques, les organisations non gouvernementales, les entreprises, avec une petite mention particulière pour les multinationales dont nous avons considéré que leur devoir était particulier compte tenu de leur puissance. C'est ça l'humanité. Et dans le travail que nous faisons actuellement, et dont je vais vous dire un mot sur la diffusion de la DDHU, nous avons considéré que c'était à chacun et à tous de se l'approprier. Autrement dit, ce n'est pas seulement un outil dont nous souhaitons qu'il soit finalement approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies, c'est un outil dont nous souhaitons qu'il puisse être approuvé par le maximum de villes, de régions, d'entreprises, d'ONG, d'individus. Alors, je viens de dire un mot pour la Déclaration des droits de l'homme, je voudrais dire un mot pour l'environnement. Je pense qu'il y a une complémentarité entre le travail qui est fait, je pense notamment au pacte que Michel Prieur pousse, je ne parlerai pas d'autres, sur la protection, les droits de l'environnement au niveau international, car nous en avons impérativement besoin, mais je pense que la Déclaration universelle est un complément. C'est-à-dire qu'elle prend en compte le rapport de l'homme à la nature, mais elle prend en compte aussi tout ce qui est plus précisément lié à l'humanité. Je veux parler de la paix, je veux parler du progrès technologique, je veux parler des questions économiques et de l'accès aux ressources. Tous sujets qui sont inclus dans les droits et devoirs de l'humanité et qui ne sont pas exclus, bien entendu, des préoccupations d'un texte concernant l'environnement, mais c'est plus éloigné, c'est plus indirect. Alors, cette Déclaration universelle, elle est très simple. Vous voyez, elle tient sur un feuillet recto verso. On ne peut pas faire beaucoup plus court. Elle comporte 12 bases du préambule, 4 principes, 6 droits, 6 devoirs. Les 4 principes, en fait, on en a parlé déjà aujourd'hui. Et l'un d'entre eux a été longuement souligné, c'est celui de la dignité de l'humanité, qui est le principe numéro 2. Dignité de l'humanité et de ses membres, impliquant la satisfaction des besoins fondamentaux, et la protection de leurs droits intangibles. Principe de responsabilité, et je dirais que c'est ça l'essentiel. Ce texte, en fait, n'a de sens que parce que l'humanité se considère comme étant responsable, non seulement à l'égard d'elle-même, non seulement à l'égard de ce qui l'entoure, non seulement à l'égard des générations futures, mais de manière plus générale à l'égard de toutes les autres espèces, parce que nous sommes la seule espèce dont la conscience lui permet d'assurer la pérennité des autres. Et c'est ce qui fait la grande différence de l'humanité avec les autres. Et c'est ce qui fait précisément la possibilité de sortir d'une conception qui soit totalement écocentrée, soit totalement anthropocentrée. C'est précisément de faire le lien entre l'un et l'autre. Le troisième principe, c'est celui de la continuité de l'existence de l'humanité, qui garantit la sauvegarde et la préservation de l'humanité et de la Terre à travers des activités humaines prudentes et respectueuse de la nature. Vous savez, il y a un raccourci qui est souvent utilisé, qui consiste à dire « il faut sauver la planète ». C'est quelque chose qui personnellement m'irrite considérablement, non pas que je sois contre le fait qu'on sauve la planète, mais cela me paraît une vision quand même singulière, parce que la planète, elle a existé avant nous, et je crains fort qu'elle existe après. Le problème n'est pas celui de la planète, le problème c'est le nôtre, et celui des espèces, accessoirement, avec lesquels nous vivons. Et donc, très souvent, sauver la planète, c'est un excellent exutoire pour ne pas parler des sujets qui fâchent. Donc, le vrai sujet, c'est celui de la pérennité de l'espèce humaine, et c'est vrai que les projections que nous avons, que ce soit celle du changement climatique, hein, parce qu'on nous dit toujours les signaux sont rouges, on a passé le seuil de l'irréversibilité, mais tout ça se fait dans un esprit de banalisation tellement considérable qu'on n'arrive pas à croire que c'est sérieux. C'est ça qui est terrible. Vous savez, c'est l'histoire du loup. À force de crier au loup, plus personne ne fait attention. Ben, c'est la même chose. Et on peut s'égosiller sur le fait qu'on a passé le seuil d'irréversibilité. And so what? Il se passe quoi? Rien. Ou pas grand-chose. Voilà. Donc, la question de dire clairement, c'est l'espèce humaine qui est en cause. Je pense que ça remet quand même à peu près les pendules à l'heure. Et puis, le dernier point... On en a beaucoup parlé, c'est le cœur de ce colloque, c'est la non-discrimination à raison de l'appartenance générationnelle, ou autrement dit l'équité intergénérationnelle, que l'on retrouve également dans les pactes pour l'environnement, qui est un principe fondamental, mais pas forcément appliqué, et même je dirais pas du tout appliqué, car s'il était appliqué, on commencerait par changer totalement la comptabilité publique et privée, Et là, effectivement, on changerait considérablement la donne, sauf que ce n'est pas ça qu'on fait. Voilà, donc vous voyez quatre principes simples dont découlent six droits et six devoirs. Nous avons voulu, au sein du comité de rédaction, un équilibre exact entre les droits et les devoirs. Alors, dans le cadre d'une déclaration, il n'est pas coutumier de mettre des devoirs. C'est tellement plus simple de parler des droits. Sauf que ce qui nous semble aujourd'hui essentiel sur le sujet qui nous occupe, ce n'est pas celui des droits, c'est celui des devoirs. C'est très bien de reconnaître des droits à l'humanité, mais c'est infiniment plus important de reconnaître les devoirs qui sont les siens. Donc nous avons équilibré entre l'un et l'autre. Alors je ne vais pas vous les détailler, mais disons que tout ceci tourne autour des conditions de la vie, de l'accès aux biens communs, de la paix, du libre choix de déterminer son destin. Et dans le terme, au niveau des devoirs, nous avons mis des principes sur la gestion du progrès scientifique et technique, qui nous paraît un sujet absolument majeur, parce que tout ce que l'on voit se développer à une vitesse accélérée en dehors du reste de tout contrôle démocratique, il faut dire les choses comme elles sont, les bouleversements que la société contemporaine vit aujourd'hui, dépendamment des sujets environnementaux, n'ont jamais été décidés par le vote de quiconque. En tout cas, si, peut-être des votes dans des sociétés, mais certainement pas des votes de la société, quelle qu'elle soit. Que ce soit la transformation. Je ne dis pas que c'est mal, hein, c'est simplement un fait. Tout ce qui s'est passé sur les biotech, il n'y a rien eu. Sur les technologies de l'information et de la communication, notre monde est totalement bouleversé. Il n'y a jamais eu de décision démocratique et tous les débats qu'il y a actuellement sur l'intelligence artificielle, l'humanité augmentée, etc., etc., bon, on en parle, ça paraît quelque chose d'assez lointain, mais où est le débat démocratique? Ce qui veut dire comment pose-t-on les bases de la recherche, parce que au départ c'est une question de recherche, et où met-on les priorités? Est-ce que la priorité, c'est vraiment d'avoir une réalité augmentée ou la priorité, c'est d'essayer de régler le problème du changement climatique? Ce n'est pas les mêmes investissements. Hein. Voilà. Donc, la question de savoir comment on gère le progrès scientifique et technique, c'est une question extrêmement importante dans les obligations. Et le fait de dire que cela doit être fait dans le souci de la préservation et de la santé de l'espèce humaine et des autres espèces, ça me semble être quelque chose d'extrêmement important. Nous y avons mis le long terme, nous y avons mis l'effectivité des principes droits et devoirs. J'ouvre une parenthèse. Nous avons beaucoup parlé aujourd'hui de justice climatique et c'est absolument fondamental et je dirais finalement très revigorant pour des gens de ma génération qui se sont beaucoup battus sur tous ces sujets, de voir qu'aujourd'hui les jeunes générations sont capables de lancer des actions et de les gagner. C'est absolument fondamental et ce qui est passionnant, c'est que c'est dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui est réellement lancé autour de tout cela. Je pense personnellement qu'il faut aller vers une justice, vers un tribunal pénal international de l'environnement et de la santé. Je pense qu'il verra un jour le jour, je ne sais pas quand, mais je pense que nous finirons par y arriver. Nous ne l'avons pas mis dans la Déclaration universelle. Parce que nous nous sommes dit qu'on n'y arriverait pas ce coup-ci. Et comme nous souhaitons que ce texte puisse être adopté par le plus grand nombre, nous nous sommes dit que si nous mettions la barre trop haut, aucune chance d'y arriver. Voilà, donc ce qu'il y a dans ce texte, qui n'est qu'une déclaration, qui n'est pas une convention, donc avec la faiblesse juridique qui s'attache à une déclaration, mais en revanche, la plus grande facilité qui s'attache à ce que la déclaration soit adoptée. Et puis, je dirais que l'évolution du droit fait que la soft law, aujourd'hui, prend une place tellement considérable, on l'a vu avec le tribunal Monsanto, prend une place tellement considérable qu'en définitive, tous les critères sur lesquels nous avions bâti le droit dur et le droit mou, avec, je dois le dire, et j'ai eu tort à l'époque, donc je le reconnais, beaucoup d'opposition autour de droit mou, parce que nous sommes nombreux à avoir considéré au départ que c'était du pipeau, que c'était du droit qui était fait pour faire du greenwashing et puis absolument rien d'autre. Bien, on se rend compte qu'en définitive, les juges ont pris au mot ceux qui avaient pris des engagements dont nous avions, nous, certains juristes, en tout cas, considéré que ça n'en, comme d'habitude, que les promesses n'engageaient que ceux qu'ils croyaient. Eh bien, un peu plus, puisqu'il y a des magistrats qui, effectivement, donnent des sanctions juridiques aux promesses qui sont passées et qui ne sont pas tenues. Donc, une déclaration peut avoir du poids. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Nous avons, depuis 2015, considérablement avancé. D'abord parce que beaucoup de villes, à commencer par, la première a été Strasbourg, puis Paris, aujourd'hui il y en a une dizaine. Je vais la semaine prochaine à Modène, en Italie, pour obtenir la signature de la ville et de la région de Modène. Donc nous commençons à aller beaucoup plus loin que l'Hexagone. Ont signé cette déclaration. Parce que les juristes, et en particulier les avocats, s'y sont beaucoup intéressés, ce qui fait que tout le barreau français l'a signé. Quand je dis tout le barreau français, c'est la conférence des bâtonniers, les ordres de l'ordre de Paris, de Strasbourg, de Marseille, quelques autres, l'UJIA, la conférence des bâtonniers, tout cela a signé, plus 19 barreaux étrangers en Afrique et en Europe, bâtonniers qui sont devenus des ambassadeurs de la déclaration, qui à leur tour font signer dans leurs différents pays la déclaration par des villes ou par des organisations. La même chose pour un certain nombre d'ONG qui s'y sont mises et des assemblées, à telle enseigne que, et j'en remercie Agnès Michelot, car je crois qu'elle n'est pas tout à fait étrangère à la chose, le Conseil économique et social européen a introduit dans le rapport qu'il a rendu sur le climat la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Au niveau personnalités qui nous soutiennent, nous avons reçu un appui tout à fait clair de l'ancien secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Et aujourd'hui, en Afrique, la déclaration poursuit incontestablement son chemin. Il est en train de s'ouvrir en Chine, avec une première région qui est intéressée. J'espère que le barreau de Californie va nous rejoindre. Ça, ce sera pour le début de l'année 2018. Voilà, donc nous progressons avec un premier État qui a signé, qui n'est pas la France, je le regrette de le dire, mais c'est ainsi, qui sont les Comores. Alors, vous allez me dire, les Comores, pourquoi les Comores ? Ben, d'abord parce qu'ils en ont eu envie. Alors, quel intérêt est-ce que cela présente ? Bien, à mon sens, ça présente beaucoup d'intérêt. D'abord parce que cela montre que cette déclaration n'est pas un produit nord exclusif de tout intérêt du Sud. Je trouve très symbolique et très important que ce soit un petit pays du Sud qui soit le premier à avoir reconnu la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Ça veut dire que, je dirais, la condescendance que certains ont en disant « mais attendez, c'est encore un texte du Nord qui n'intéresse que les gens du Nord », c'est pas vrai. Deuxièmement, les Comores ont un gros intérêt, c'est que c'est à la fois un État qui participe aux petites îles, qui participe à l'organisation de l'unité africaine et qui participe à, alors j'oublie toujours le nom officiel de la chose, mais enfin, l'Alliance des États islamiques, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est de cela dont il s'agit. Donc, nous avons là un ambassadeur puissant qui s'est exprimé, du reste, en faveur de la DDHU à la COP, COP 23 à Bonn, hier ou avant-hier. Et nous progressons, et je dirais avec cet intérêt, je crois que c'est quand même une des premières fois où on a un texte qui est reconnu, auquel adhèrent à la fois des personnes privées, des personnes physiques et des personnes morales privées, et des personnes publiques, étatiques et non étatiques. Ce qui veut bien dire que c'est un texte qui correspond effectivement à ce qu'est l'humanité. Alors, je ne sais pas encore si nous gagnerons, je l'espère. Je l'espère parce que c'est en train de faire boule de neige et c'était le début qui était difficile, mais maintenant on est parti dans toute une série de pays du monde. Pour ceux que cela intéresse, vous pouvez aller sur notre site qui s'appelle droitshumanité.fr, vous verrez la planisphère avec des petites croix, enfin des petits signets sur toutes les régions où nous avons des entités qui l'ont signé, et la planisphère commence à se, ou le planisphère plutôt, commence à se remplir. Voilà, je dirais que par rapport à tout ce que vous avez dit cet après-midi, à tout ce qui se fait sur la justice climatique, j'espère va se faire dans des conditions comparables sur la justice sanitaire, parce que nous avons avec le sujet des pesticides et de manière plus générale de la pollution chimique un sujet absolument majeur pour la pérennité de l'humanité, et on est toujours sur le même sujet, eh bien, je pense que nous avons là un texte qui peut servir un peu de texte de base, un peu de grands principes, qui pourront être utilisés par tous ceux qui, dans le monde, et ils sont de plus en plus nombreux, se battent, non seulement pour eux-mêmes, mais pour faire reconnaître ce qui, en réalité, appartient aux droits de l'humanité. Je vous remercie.